Curieuse, et je suis ici à la demande pressante de notre président de Béliev, donc Gilles Roche. Donc moi je viens de l'agrochimie, je suis ingénieur agronome, et j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie agrochimique et dans les biotechnologies végétales, chez Rondboulin, puis chez Bayer. Il y a eu beaucoup de consolidation dans cette industrie. Donc je suis quand même formaté par cette industrie, je suis formaté par ma formation d'ingénieur. La présentation que j'ai préparée est une présentation qui peut-être, pour certains d'entre vous, vous la trouverez peut-être un peu trop complexe, donc arrêtez-moi si vous êtes perdu. C'est une présentation très ingénieure, donc peut-être que certains d'entre vous seront un petit peu perdus. Alors, bien qu'ayant passé ma carrière dans l'industrie agrochimique, je pense quand même que j'ai gardé un certain esprit critique et une certaine honnêteté intellectuelle. Mais il est certain quand même que je suis formaté. Donc, si certains d'entre vous considèrent que cette présentation est quand même trop orientée dans un sens, ben, n'hésitez pas. Moi, je suis tout à fait ouvert. Ça fait 10 ans que je ne travaille plus dans cette industrie. Je n'ai pas d'intérêt particulier dans le glyphosate, donc je suis complètement neutre. Mais c'est vrai que je suis quand même formaté. J'ai presque 70 ans, donc j'ai fait toute ma carrière dans cette industrie. Donc mes réflexes intellectuels sont quand même orientés. Voilà. Ceci étant dit, j'ai résumé dans cette phrase ce qu'on entend très fréquemment à propos du glyphosate sous différentes formes, mais qui résume assez bien la situation. Le glyphosate est un terrible poison qui attaque la biodiversité, ruine la santé des humains qui sont exposés. D'ailleurs, l'OMS dit qu'il est cancérigène. Et si on continue d'utiliser, c'est uniquement à cause du terrible pouvoir de lobby et d'influence de l'agrochimie qui contrôle le Parlement français et les agences de régulation. Bon, voilà, en gros, si vous voulez, c'est ce qu'on entend. Alors, face à ça, bon, j'aimerais quand même vous fournir des éléments, je dirais, objectifs, que je considère comme étant objectifs, qui permet quand même de relativiser ce genre de déclaration.
L'EFSA, oui.
L'EFSA, c'est l'agence sanitaire, l'agence française de sécurité alimentaire. Alors, il y a beaucoup d'acronymes dans cette présentation, n'hésitez pas. Vas-y. Donc, le glyphosate, c'est un sujet immense, et franchement, j'aurais jamais dû accepter cette présentation. Parce que ça fait un mois et demi qu'il me l'a demandé, ça fait un mois et demi que je bosse là-dessus, et chaque fois que je retourne sur Internet, je retrouve des tonnes de documents, des tonnes d'informations. Donc, j'aurais pas dû accepter. Donc, trop tard, oui. Alors ça touche tout, ça touche l'alimentation, la santé publique, ça touche bien sûr les questions agricoles, l'agriculture industrielle, les OGM, des questions scientifiques que je vais essayer d'aborder avec vous, qui sont quand même des questions scientifiques extrêmement complexes, extrêmement spécialisées, et qui requièrent quand même, si on veut avoir une opinion informée sur ces questions, quand même un certain approfondissement, on ne peut pas les regarder superficiellement. Bien sûr, ça a des impacts environnementaux, des impacts sur la qualité des sols, sur l'érosion, et bien sûr après sur l'environnement réglementaire. Donc c'est vraiment une question qui touche énormément de choses. Alors, on ne va pas tous les aborder, mais on va quand même essayer de survoler cet ensemble. Mon fils, oui. Ah oui. Alors bon, une fois de plus, mes objectifs sont limités. Mes objectifs, c'est simplement vous apporter des éléments que je considère comme factuel, mais sur lequel vous aurez peut-être des opinions différentes, de façon à rationaliser le débat. Jean-Marc. Alors, je vous présente ici un petit peu le déroulé qui couvre à peu près les 40 ans d'existence du glyphosate, puisque le glyphosate a été mis sur le marché dans les années 74 par Monsanto, mais en fait c'est une molécule qui date de bien avant. Donc, en 1974, lorsque Monsanto a mis cette molécule sur le marché, ça a été considéré par l'ensemble des professionnels comme une grande avancée, et je vous expliquerai pourquoi. Jusqu'en 1996, la molécule s'est développée de façon à ce que j'ai qualifié de normale, comme un pesticide comme un autre, sans plus, bien que c'était quand même déjà un pesticide qui était considéré, un herbicide qui était considéré comme étant extrêmement performant, mais en 1996, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un boost terrible, c'est l'arrivée des OGM. qui ont été introduits aux États-Unis pour la première fois sur soja et maïs en 1996. Et à partir de là, le Roundup, c'est le nom commercial du glyphosate, a subi une explosion extrêmement importante que je vais vous présenter. Ensuite, alors, ce que j'appelle l'acte 4, suite à l'introduction des OGM, et surtout en Europe et surtout en France, il y a eu un mouvement très fort contre les OGM. OGM, qui a pris comme cible Monsanto et comme cible le glyphosate. Donc le glyphosate, en quelque sorte, est devenu presque l'ennemi numéro un avec les OGM et Monsanto. L'acte 5, c'est lorsque l'agence de l'OMS, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a classifié le glyphosate comme dans le groupe 2A, qui sont les carcinogènes probables. Alors je vous expliquerai un peu plus tard de quoi il s'agit. Et le dernier acte, c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire la réaction des politiques, et c'est essentiellement la France d'ailleurs, hein, puisque le reste du monde n'est pas du tout aligné sur ce qui se passe en France, où en France, le gouvernement, l'année dernière, a décidé d'interdire toute application du glyphosate dans 3 ans, c'est-à-dire donc 3 ans à partir de 2017, donc ça fait 2021. Donc voilà en gros le film en accéléré. Alors, comment je vais organiser le débat? D'abord, on va parler de qu'est-ce que c'est que le glyphosate. Ensuite, on parlera de ses usages. Et puis ensuite, on se penchera un peu plus sur le profil toxicologique et sur la controverse. Et puis après, donc, on en discutera entre nous. Alors, c'est quand même assez long, donc n'hésitez pas si vous trouvez que c'est un petit peu rébarbatif à me le faire savoir. Hein. Alors, il y a beaucoup de questions que je n'aborderai pas. Par exemple, une des questions essentielles, c'est l'effet dans le Roundup, qui est le produit commercial, il y a des adjuvants. Et ces adjuvants ont des effets importants sur la toxicité. Il y a des effets de synergie. Donc, c'est des questions importantes, je ne les aborderai pas. Il y a également la question du métabolite principal du glyphosate, qui est l'AMPA, qui est très présent dans l'environnement et qui ne vient pas d'ailleurs que du glyphosate. Il y a un tas de sources, en particulier les lessives. Et là non plus, j'en parlerai pas. Et puis il y a les impacts environnementaux aussi, qui sont quand même, là aussi, c'est des questions importantes, et j'en parlerai pas également. Si ce n'est peut-être sur les abeilles, il y a peut-être un mot à dire. Bien, la suite, Jean-Bas. Alors, qu'est-ce que c'est que glyphosate? Alors, cette molécule est une molécule assez simple, c'est un acide faible, qui a été découvert dans les années 50 par un chimiste suisse, qui a trois effets. D'abord, ça a été utilisé comme chélateur de métaux, par exemple pour nettoyer les tuyauteries. Et c'est toujours utilisé d'ailleurs comme chélateur de métaux. Alors bien sûr, l'herbicide, c'est un herbicide total, je vous expliquerai pourquoi, qui a été mis sur le marché, breveté et mis sur le marché par Monsanto en 1974. Il y a un effet antibiotique. C'est un produit qui, dès qu'il se retrouve dans le sol, est immédiatement ou quasi immédiatement absorbé par les particules. Et pour accroître, comme je l'explique ici, pour accroître la solubilité, on le formule sous forme de sel. Alors il y a 3 ou 4 types de sel, dont un qui était assez important, qui était la thalloaminine, qui a été en fait retirée du marché récemment, parce que c'était effectivement assez toxique. La suite. Alors, quel est le mode d'action du glyphosate? Le mode d'action, alors, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, le glyphosate, en fait, bloque une enzyme, l'EPSP synthase, qui est une enzyme qui est impliquée dans la chaîne de biosynthèse d'acides aminés aromatiques, c'est-à-dire phénylalanine, tyrosine, tryptophane. Vous savez qu'il y a 21 acides aminés qui sont en fait les briques avec lesquelles on construit les protéines. Et les protéines sont les enzymes qui font tourner la machinerie cellulaire. Ces trois acides aminés aromatiques sont essentiels pour nous comme pour les plantes. Mais dans le cas des plantes, les plantes les synthétisent à partir de l'acide chimique. Chez tous les animaux, il n'y a pas cette voie de synthèse. On procure ces acides aminés essentiels pour bâtir nos protéines, nos enzymes. On les trouve dans l'alimentation. Les humains n'ont pas ce type de chaîne métabolique. Alors la suite, Jean-Claude. Oui, là, là, c'est un petit peu la même chose. Je vous explique donc que l'acide chimique est le précurseur de molécules importantes pour le végétal, en particulier les acides aminés aromatiques, mais pas uniquement. Il y a également des tanins, des lignines, l'acide salicyclique. Enfin, il y a beaucoup de métabolites qui dépendent de cette chaîne qui est bloquée par le glyphosate. Ce que fait le glyphosate, c'est que le glyphosate se lie avec cette protéine et empêche cette protéine ensuite de rentrer dans la chaîne, de catalyser cette chaîne métabolique. Vas-y. Alors, le glyphosate est un produit. Comment il agit dans la plante? Il est absorbé uniquement par les feuilles. Par exemple, si vous mettez du glyphosate sur les parties ligneuses, il n'est pas absorbé. Si vous laissez tomber du glyphosate sur le sol, il est inactivé. Donc il est uniquement absorbé par les feuilles et ensuite il transite à travers le phloème, le phloème étant les flux dans la plante qui transportent toutes les molécules produites par les cellules pour aller irriguer en particulier les zones de croissance, pour aller alimenter les zones de croissance. Donc le glyphosate pénètre par les feuilles et ensuite va se déplacer vers les zones de croissance, c'est-à-dire vers les méristèmes dans les parties aériennes et dans les méristèmes à l'intérieur des racines. Donc il a une caractéristique extrêmement importante, il va tuer les racines. C'est pour ça que le glyphosate est un produit qui marche très bien contre les plantes vivaces, en particulier le chien d'en bas. Alors que il n'y a pratiquement pas d'herbicides, ou il y a très très peu d'herbicides qui agissent contre le chien d'en par exemple, ou contre les vivaces. Hein. Alors la suivante. Bon, c'est une slide un petit peu compliquée, bon, on ne va pas être y passer dessus. Simplement, dans cette slide, c'était pour vous dire que le glyphosate agit essentiellement au niveau de cette enzyme, hein, le PSPS, qui permet de synthétiser ces acides aminés aromatiques. Mais indirectement, il agit également à d'autres niveaux, puisqu'il a un effet de chélateur, il va bloquer les métaux. Et par exemple, ce qu'on appelle le photosystème ou la synthèse de la chlorophylle, ou bien dans tous les systèmes antioxydants, pardon. Dans tous les systèmes, il agit également dans ces systèmes-là. Mais enfin, l'effet principal, c'est l'EPSPS. C'est d'ailleurs cette EPSPS sur lequel on agit pour rendre les plantes résistantes au glyphosate. Je vous en parlerai plus tard. Donc il y a pas mal d'effets. De toute façon, quand on utilise une molécule de synthèse, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup d'effets au niveau du métabolisme de la plante. Mais l'effet essentiel, c'est cette enzyme. La suite. Oui, alors simplement pour vous dire dans cette slide que le métabolite principal du glyphosate, c'est l'aminométhylphosphonique acide, l'AMPA, qu'on retrouve effectivement dans les rivières. Voyez. Mais cette molécule provient à d'autres sources, particulièrement par exemple les lessives. Quand on a remplacé les phosphates par les phosphonates, ben, on se retrouve avec ce genre de métabolites qui passe à travers les stations d'épuration et qu'on retrouve beaucoup autour des villes. Il y a d'autres sources, comme par exemple les liquides de refroidissement, les systèmes de réfrigération, peuvent également générer ce type de molécules dans l'environnement. Donc la suite, en bas. Alors, entre parenthèses, dans les études de toxicité, dans les études de résidus, on prend, les scientifiques prennent non seulement le glyphosate, mais ils prennent également les résidus, les métabolites du glyphosate, et en particulier l'AMPA. Alors, quelques généralités sur la production. Donc le glyphosate aujourd'hui n'est plus protégé par aucune propriété intellectuelle depuis 2000. Hein. Donc ça fait déjà 18 ans que le glyphosate est dans le domaine public et il y a à peu près une centaine de producteurs au niveau mondial, dont la Chine. La Chine produit quasiment la moitié du glyphosate au niveau mondial, hein. Pas uniquement Monsanto. Monsanto, en fait, à l'heure actuelle, ne génère pas ses revenus à travers le glyphosate, mais il génère ses revenus à travers la génétique, à travers les semences. Donc, enregistré, alors en 2010, il était enregistré dans 130 pays. C'est le premier herbicide du monde, avec 840 000 tonnes. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et donc, oui, ce que j'explique là, c'est que effectivement, le déploiement du glyphosate date essentiellement de l'introduction des plantes OGM. La suite, Jean-Marc. Alors, l'usage. C'est un herbicide qu'on dit non sélectif, par opposition aux herbicides sélectifs. C'est un herbicide, donc, vous avez vu, son mode d'action est un mode d'action qui touche toutes les plantes. Donc, toutes les plantes sont susceptibles d'être tuées par le glyphosate. Certaines plantes, naturellement, ont une enzyme qui, par sa configuration, est plus résistante au glyphosate, et donc certaines plantes résistent. Il détruit, comme je vous ai expliqué, il détruit les parties en croissance de la plante, donc ça prend un certain temps. Lorsque vous appliquez du glyphosate, comme il n'agit que sur les zones en croissance, bon, mais donc ça prend une quinzaine de jours avant que le produit agisse. Il agit uniquement sur les parties foliaires, il n'agit pas sur les parties ligneuses, et il perd son activité désherbante dès qu'il est dans le sol, puisqu'il est absorbé par les particules du sol. Alors, les doses d'utilisation, c'est un produit qu'on utilise. Alors, selon le type de flore adventice qu'on veut éliminer, les usages peuvent varier entre 500 g de matière active jusqu'à 2 kg de matière active par hectare. Il est très utilisé pour la préparation des semis. Je vais vous montrer quelques slides. Très utilisé pour la culture sans labour. C'est même l'outil essentiel pour la culture sans labour, sachant que les labours sont extrêmement... pas destructeurs, mais ont un impact très fort sur l'environnement. Sur le désherbage, dans les atteints rangs des vergers, des vignes, il est utilisé en pré-récolte pour ce qu'on appelle la dissécation, pour accélérer la dissécation des cultures, enfin la maturité des cultures, de façon à pouvoir maîtriser la date de récolte et anticiper par exemple des périodes de mauvais temps. Si on ne peut pas récolter, à ce moment-là, on applique du glyphosate. On tue la plante se déchèche et on peut la récolter. Et bien sûr, le désherbage des OGM, ça représente à l'heure actuelle, au niveau du monde, ça représente 60% de l'utilisation. Et enfin, il est utilisé beaucoup dans les parties non agricoles, hein, les routes, les voies ferrées par exemple. Les voies ferrées sont désherbées avec du glyphosate. Ça représente à peu près 20% du visage dans le monde. Mais, bien sûr, avec un usage aussi massif, des résistances sont apparues. Et ces résistances sont bien sûr un problème au glyphosate, mais c'est un problème général en agriculture. Hein. Dès que vous appliquez des pesticides, que ce soit des insecticides, des herbicides ou des fongicides, les micro-organismes sont sélectionnés et petit à petit développent des résistances. Dans la slide suivante, dans cette slide, j'explique un petit peu les méthodes traditionnelles. Je vous explique un petit peu la différence entre les méthodes conventionnelles et les méthodes sans labour. Donc vous voyez par exemple ici, ça c'est la mise en place d'une culture de façon traditionnelle. Donc après la récolte, on passe une déchaumeuse pour déchaumer. Hein. Ensuite, labour. Labour, on consiste à retourner la terre, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont à 30-40 cm se retrouvent en surface. Pareil pour les graines, d'ailleurs ça provoque souvent des ressemis, hein, des ressemis naturels en quelque sorte. Ça chamboule complètement la terre, hein, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a quand même un mouvement assez fort pour limiter le labour. Hein. Ensuite, il faut préparer le lit de semences, alors un ou deux passages ou trois passages, ensuite le semis. Si vous passez en mode sans labour, c'est la suivante, en mode sans labour, vous traitez votre champ au glyphosate, et ensuite vous faites un seul passage, avec un semoir qui est spécifique. Ce n'est pas le même semoir que pour le semoir en agriculture conventionnelle. Donc, avantage, le coût est réduit puisque vous avez deux passages de tracteur au lieu de trois ou quatre, hein, même voire cinq parfois. La levée rapide, donc moins de sensibilité à la sécheresse parce que les sols restant couverts se dessèchent beaucoup moins. Diminution de l'érosion et favorise la vie du sol puisque le sol n'est pas chamboulé par le labour. Hein. Donc c'est quand même un avantage assez important, et ça, pour ce type d'agriculture, qu'on appelle l'agriculture de conservation, c'est le glyphosate est quand même un outil extrêmement important. Alors là, dans ce graphique, c'est un graphique qui représente tous les herbicides, avec les différents modes d'action, et c'est les apparitions de plantes résistantes aux herbicides. Hein, chaque point est une plante, est une nouvelle plante qui est résistante. Donc, en cumulé, bien sûr. Donc, vous voyez que Là, vous avez tous les modes d'action des herbicides. Vous avez par exemple les auxines, qui sont les hormones végétales. Et vous avez bien sûr le glyphosate, le PSP, l'inhibiteur de l'EPSP, qui se trouve ici. Et vous voyez que le glyphosate, effectivement, a généré des résistances, mais c'est un problème. Ces problèmes de résistance des adventices, c'est un problème qui est absolument général. C'est pas spécifique au glyphosate. Et donc, pour gérer ce type de résistance, les agriculteurs doivent mettre en place toute une série de pratiques qui incluent des rotations d'herbicides, qui impliquent des dates de semis, qui impliquent un travail cultural spécifique. Donc le management de ces résistances est quand même quelque chose qui requiert beaucoup d'attention et qui est assez spécifique, qui est assez technique. Alors, ça c'est l'usage au niveau mondial du glyphosate en tonnes. Donc le glyphosate a été introduit dans les années 1974, et vous voyez que jusque dans les années 95-96, le glyphosate était moins de 100 000 tonnes, il y avait à peu près 50 000 tonnes au niveau mondial, ça c'est au niveau mondial. Et donc vous voyez l'explosion du glyphosate qui suit l'introduction des OGM. Et donc là, en rouge, vous avez des applications agricoles, et en vert, des applications non agricoles, c'est-à-dire désherbage, des voies ferrées, ce genre de choses.
Quel est le lien entre glyphosate
et... Je vais y venir. Hein. Donc, simplement, cette slide représente le développement des cultures OGM au niveau mondial. Donc vous voyez que les États-Unis représentent... ça, c'est en 2014, Les États-Unis représentent un gros tiers au niveau mondial, et c'est essentiellement maïs, soja, coton. Et à l'heure actuelle, donc là, on est en 2014, il y a un peu moins de 200 millions d'hectares, mais à l'heure actuelle, en 2018, au niveau OGM, on est à 250 millions d'hectares, à peu près, au niveau mondial. Je vous rappelle que la surface arable mondiale est de l'ordre de 1,5 milliard, donc 250 millions de cultures OGM sur 1,5 milliard. Vous voyez, ça fait un pourcentage assez important en culture OGM, au niveau mondial. Les OGM sont interdits en France, bien sûr. Enfin, vous voyez que cette courbe, si vous prenez la courbe précédente, vous voyez, la courbe du glyphosate est quand même assez parallèle à un schéma assez identique à la courbe d'évolution des OGM. Alors, ça, c'est les cultures OGM. C'est le volume de glyphosate qui est épandu par culture OGM. Alors, vous voyez, on est en 2012, j'ai pas eu une statistique plus récente, mais en 2012, 56% du glyphosate était appliqué sur des cultures OGM. Et essentiellement, il y a quatre cultures OGM, le coton, le maïs, le soja, le canola. Vous voyez que le soja, par exemple, sur 360 kilotonnes de glyphosate, le soja représente 265. Et le soja, c'est Argentine, Brésil, essentiellement, et un peu les États-Unis, pas mal les États-Unis. Bien, la slide suivante. Alors, ce slide est intéressant. C'est une slide qui a été, c'est une carte qui a été publiée par les services géologiques américains, qui représente la densité d'utilisation du glyphosate par mile carré, par kilomètre carré. Donc vous voyez que dans la partie noire, il y a 160 grammes de glyphosate, de matière active, par hectare. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter. Alors ça, c'est essentiellement le maïs et le soja. Dans le sud, la partie sud, c'est plutôt le coton. Cette partie-là. Donc vous voyez quand même ce que ça peut représenter. Il y a du glyphosate partout. Alors on va voir après un petit peu quelle est la signification de ça. Est-ce que c'est alarmant ou est-ce que c'est pas alarmant? C'est ça la question. Alors, lorsque le gouvernement français a décidé d'arrêter le glyphosate à horizon de 3 ans, ils ont maintenant mandaté l'INRA pour demander à l'INRA quelles sont les alternatives. Donc l'INRA a fait un rapport en novembre 2017 qui est publié, vous pouvez lire ce rapport, dans lequel l'INRA donne quelles sont les alternatives possibles. Alors la conclusion de ce rapport, ça c'est la conclusion de l'INRA, Pas de réelle solution à court terme. La disparition du glyphosate entraînera une modification profonde de certaines parties culturales, avec le risque de rendre certains secteurs de l'agriculture moins compétitifs. Alors, il y a un secteur qui sera, à mon avis, très affecté, c'est la production de semences. La production de semences en France sera probablement délocalisée. C'est assez facile, hein, parce que la production de semences est contrôlée par Villemorin, Limagrain, par Monsanto, Bayer. Et ils peuvent produire aussi bien en Hongrie, où il y en a pas mal, ou dans d'autres pays, plutôt que produire en France.
C'est quoi la culture sous mulch?
La culture sous mulch vivant, c'est maintenir des plantes qui sont vivantes, que l'on broie et sur lesquelles on sème en dessous. Hein. C'est pour maintenir un couvert végétal. Alors oui, ça c'est un tableau, on va pas regarder dans le détail, hein. C'est toujours dans le rapport fait par l'INRA. Donc l'INRA a regardé quels étaient les types de situations et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour remplacer le glyphosate. Alors, c'est très parlant, hein. La première ligne c'est le glyphosate en vert, et ensuite quand c'est rouge c'est qu'il n'y a pas d'alternative possible. Donc ce graphique, ce tableau, c'est l'INRA qui l'a établi, et c'est la vision aujourd'hui de l'INRA. Donc véritablement le fait que l'on arrête le glyphosate va poser des problèmes importants dans certains secteurs de l'agriculture. Ils vont en être conscients, et alors c'est pour ça que moi je pense qu'en fait ça ne va pas se produire, ou ça risque de ne pas se produire, ou ils vont repousser, ou ils vont mettre des limitations, des garde-fous. Mais à mon avis, le ban du glyphosate en 2021, je ne pense pas qu'il aura lieu. D'ailleurs, c'est bien pour ça que le gouvernement a eu la sagesse de ne pas mettre ça dans la loi. Parce que s'il avait mis dans la loi, on se retrouvait avec ce genre de situation. Alors là, c'est un exemple d'analyse. La commission avait mandaté un bureau d'études pour estimer quel était l'impact en termes de rendement du retrait du glyphosate. Donc là, c'est qu'un exemple, hein. J'ai pris, c'est qu'un tableau. Il y a tous les pays européens qui y sont passés, toutes les cultures qui y sont passées. Donc là, vous voyez simplement, et ça a été établi par les instituts techniques, hein. Donc là, c'est des pourcentages établis par Arvalis, hein, qui est le centre technique interprofessionnel des céréales. Ben, il estime que la perte de rendement sur blé et sur orge va se situer entre 7% et 14% sur le blé, et entre 8% et 15% sur l'orge. Donc quand vous pensez que la France est un des premiers producteurs en blé, vous voyez l'impact. Hein. Cet impact en termes de monnaie peut être estimé à 1,6 milliard, entre 1 et 1,6 milliard. Donc c'est pas du tout anecdotique, ou c'est pas du tout une décision politique sans conséquence. Parce que entre 1 milliard et 1,6 milliard de revenus en moins pour les céréaliculteurs, ça pèse très très lourd. Bien, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus.
Je ne sais pas. Est-ce que ça a du sens d'interdire en France le glyphosate dans 3 ans, si en même temps on continue à importer des produits alimentaires des États-Unis, du Brésil, de Chine?
Mais là, tu poses la question des résidus. Les résidus. Bon, mais c'est un petit peu, on va aborder cette question.
Qu'est-ce que l'INRA a fait à
court terme? L'INRA revient en arrière, hein, tu vas voir. C'est résumé ici. Il n'y a pas de solution. Les solutions à court terme, c'est le travail mécanique, c'est le retour au labour, c'est le retour aux pratiques culturales, hein, pratiques culturelles avec les tracteurs. Hein. Pratique, ou bien alors, par des systèmes de rotation de culture, on arrive à mieux à contrôler les adventices, à prévenir par des rotations culturelles. Les adventices, c'est mauvaises herbes. Les mauvaises herbes.
Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans votre explication.
Oui, je sais bien.
Hein. Qui sont,
Ben, interrompez-moi. Hein, interrompez-moi.
Le pesticide, à quoi il correspond? Herbicide, je le comprends.
Pesticide, c'est l'ensemble insecticides, fongicides, c'est contre les champignons, et herbicides. Voilà.
ça couvre, pesticides, ça couvre ces trois domaines. C'est tous les produits agrochimiques utilisés pour contrôler les ennemis des plantes, enfin, ceux qu'on considère comme les ennemis des plantes.
Il y a des programmes de recherche qui sont lancés dans les différents
Oui, bien sûr. Mais développer une alternative comme ça, c'est 15 ans de recherche avec des budgets énormes. Et ça, l'INRA ne le fera pas. L'INRA ne développera pas. L'INRA développera des pratiques culturales, enfin ce qui est indiqué là d'ailleurs, hein, on revient en arrière. Hein. Le labour, non, celle-ci, voilà. Ça, c'est les conclusions de l'INRA. Hein. Donc, destruction, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la destruction physique des herbes. C'est la destruction physique des herbes. Hein, désherbage mécanique, travail superficiel du sol. Le labour, avec tous les inconvénients du labour. Hein. Le labour, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement. Qui perturbe beaucoup le sol. Hein. Et puis ensuite, c'est ce qu'il appelle une somme de stratégie d'évitement partiel, c'est-à-dire le timing des semis, les rotations des cultures, les faux semis, c'est-à-dire faire un passage pour provoquer l'émergence des mauvaises herbes et après les détruire. Donc il y a des stratégies à mettre en place comme ça. La culture sous mulch vivant, c'est-à-dire maintenir un couvert végétal et ensuite broyer ce couvert végétal et semer dessus en quelque sorte. Hein. Et puis alors, dernièrement, l'utilisation ciblée d'autres herbicides homologués. Mais les autres herbicides, pratiquement tous, d'ailleurs c'est pas pratiquement tous ont un profil écotoxicologique plus mauvais. Et sont moins actifs. Ils sont moins actifs. Oui.
Vous avez oublié de parler du glyphosate au niveau des vignobles.
Oui.
C'est très important.
Ah ben oui.
Les vignobles,
bien sûr.
Parce que ça, c'est très très important.
Oui.
Le Roundup, par exemple.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Voilà. Oui, alors glyphosate et Roundup, c'est pareil, hein, j'ai oublié de le dire.
Hein. Même si le sol est humide, donc on ne peut pas travailler sur ce qu'on appelle la mouille bordelaise, etc., pour les substituts aux anti-pesticides. Hein.
Bouillie bordelaise qui sur le plan toxico est aussi négatif que le glyphosate. Hein.
Pour revenir sur le lien entre OGM et glyphosate.
Oui. Oui, mais c'est toxique. Le glyphosate, c'est pas du tout. Enfin, je vais y revenir sur le glyphosate. Hein. Mais c'est pas la même nature, oui. Mais oui, je m'excuse, oui. Non, alors le lien. Alors, c'est ce qui a été fait hein, pour les OGM. Les sociétés comme Monsanto, Bayer, etc., ont introduit dans les plantes un gène c'est un gène d'une bactérie, c'est Agrobacterium tumefaciens, qui naturellement a une enzyme, une enzyme EPSPS, qui a une conformation légèrement différente et qui est résistante au glyphosate. Donc, ce qu'a fait Monsanto, par exemple, ils ont introduit l'EPSPS d'Agrobacterium tumefaciens dans le maïs. Donc le gène, ils ont introduit le gène, donc le gène ensuite fonctionne et puis synthétise, provoque la synthèse d'une EPSPS, d'une enzyme qui n'est pas bloquée par le glyphosate. Donc c'est ce qui a été fait. Alors il y a une autre stratégie qui a été utilisée par Ron Poulenc. Bon, moi j'étais, donc c'était à l'époque où j'étais chez Ron Poulenc et donc j'ai travaillé dans ce domaine. Ron Poulenc a modifié deux acides aminés dans la chaîne de l'EPSPS, qui fait que la conformation de l'EPSPS est légèrement différente et du coup elle est insensible au glyphosate. Donc en modifiant en fait deux bases dans le gène de l'EPS, on a modifié cette enzyme qui fait qu'elle n'est pas touchée par le. Qu'elle est résistante au glyphosate. Alors, il y a une autre stratégie qui est d'amplifier les gènes de détoxification. Donc, il y a différentes stratégies pour rendre ces plantes résistantes. Et donc, c'est ça le lien. Hein. Je ne sais pas si c'était votre question.
C'est ça, oui,
donc, c'est des plantes.
Excusez-moi. Ce que vous dites, c'est
que je propose, parce que je prends un peu leadership avec l'accord de notre président, c'est qu'on garde les questions pour tout à l'heure, oui. Parce que sinon il ne va pas dérouler. Je viens de noter vos questions, on va avoir leur réponse dans pas longtemps. Oui. Je viens de noter vos questions, et tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Il y a des définitions, des sites que vous ne comprenez pas, pour vous gêner la suite de la compréhension. Là, c'est bien de
voir. Oui, non, mais là, effectivement, ça arrive.
Sinon, si vous voulez garder les questions, parce que sinon, il va faire le carton des choses. Si vous voulez bien.
Non, et puis surtout, que ça arrive.
D'accord,
oui, bien sûr. On se garde toujours du temps en fin de réunion.
Bon, surtout que ça. Oui. Bon, je m'en excuse à l'avance parce que effectivement, bon, je savais pas très bien avec qui, à quel public j'avais affaire. Donc c'est une présentation qui est une présentation, je reconnais, qui est un petit peu complexe, avec beaucoup d'acronymes. Bon, mais si vous comprenez pas, si vous êtes paumé, bon, on va aborder le problème du profil toxicologique parce que bien sûr, comme vous l'avez compris, le glyphosate est le premier herbicide utilisé dans le monde. Je ne vous ai pas signalé ces statistiques, mais enfin, les surfaces arables mondiales représentent à peu près 1,5 milliard d'hectares. Et le glyphosate est utilisé sur à peu près 500 millions d'hectares. Donc vous voyez, à peu près, le glyphosate représente à peu près, en gros, 30% des surfaces mondiales reçoivent du glyphosate. Donc ça pose quand même un problème, ça pose une question. Alors, est-ce que c'est dangereux ou pas? Quelles sont les conséquences de ça? Bon, c'est vrai que ça interroge quand même, hein. Alors, donc, sur ce glyphosate, il y a des discussions sans fin. Hein. Je veux dire, si vous allez sur Internet, il y a des milliers et des milliers de pages, il y a des centaines d'études sur le glyphosate. On trouve à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Hein. Vous avez des études qui sont en faveur, des études qui sont contre, des études... on ne sait pas très bien, ce qui est mesuré. Est-ce que c'est la matière active? Est-ce que c'est la formulation? Est-ce que c'est in vitro? Est-ce que c'est in vivo? Quelles sont les doses utilisées? Est-ce que c'est des doses qui se rapprochent des doses que l'on trouve dans l'environnement, dans l'agriculture? Vous trouvez énormément de choses parce que c'est une molécule qui est étudiée depuis à peu près une cinquantaine d'années. Donc il y a quand même énormément de choses là-dessus. Alors, il y a quand même, tout bien sûr est devenu beaucoup plus, je dirais, critique depuis que le CIRC, donc le Centre international de recherche du cancer, qui est une agence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classifié le glyphosate dans la classification carcinogène probable 2A. Alors, je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, à noter quand même que toutes les agences réglementaires, il n'y a aucune agence réglementaire dans le monde qui ont repris la classification du CIRC. Alors, il y a eu, comme je vous disais, il y a eu des centaines, voire des milliers d'études sur le glyphosate, et on a trouvé de tout. On a trouvé le glyphosate serait un neurotoxique, il endommagerait les membranes de l'ARN, les membranes de la cellule, il abaisserait la qualité du sperme, on a vu ça en Argentine. Il provoquerait la maladie de Parkinson, par exemple au Sri Lanka. Il aurait des effets tératogènes sur certains vertébrés. Enfin, si vous faites la liste, c'est loin, 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 loin. C'est minuscule. Hein. Si vous faites la liste, vous avez des milliers d'études un peu partout. Alors, la suite, Jean-Marc. Alors, d'abord, premièrement, quel est le cadre général des classifications toxicologiques? Il y a deux notions très importantes. C'est la notion de danger intrinsèque, toxicité intrinsèque, et l'exposition. L'exposition, c'est le risque que vous avez d'être en contact avec cette molécule. Le danger caractérisé, multiplié en quelque sorte, hein, par l'exposition, représente le risque. Et ce que les agences réglementaires type EFSA, GMPA. Alors GMPA, c'est très important, c'est le Joint Meeting Committee pour OMS, FAO, sur les résidus mondiaux. C'est le GMPA qui dresse les listes des résidus acceptables au niveau mondial sur toutes les cultures. Donc, ces agences évaluent le risque, alors que le CIRC, lui, évalue le danger. Alors il y a une comparaison qui a été prise par un toxicologue pour faire la différence, pour expliquer la différence entre danger et risque. Il expliquait que si dans une cuisine il y avait par exemple un couteau extrêmement pointu et un enfant qui rentre dans cette cuisine, le couteau est un instrument dangereux et il est directement accessible par l'enfant, donc il y a une exposition très forte. Et donc dans ce cas-là, le risque pour le bébé est extrêmement élevé. Si par contre le couteau dont le danger reste le même est enfermé dans un placard, le bébé rentre et son risque est très faible. Donc c'est un petit peu ce type de notion qui exemplifie la différence entre danger et risque. Alors, le danger, on va y revenir, est évalué comment ? Il est évalué à travers toute une batterie d'études de toxicologie, alors souvent sur des animaux, sur des rats, sur des cochons, sur des lapins, sur des... Et donc, alors, on étudie, ce sont des toxicités à la fois dermales, par aiguë, par ingestion, sur la durée de vie, ou bien au contraire sur des temps très courts, toxicité aiguë versus toxicité chronique. On fait des tests également pour voir l'impact sur les différentes générations, ce qu'on appelle des études multigénérations. Donc il y a toute une, c'est très codifié. Et c'est extrêmement important pour ces études toxicologiques, pour un produit agrochimique, ça représente des milliers de pages en fait. Ensuite, alors pardon, excuse-moi, non, reviens en arrière. Ensuite, on évalue l'exposition. Alors l'exposition s'est évaluée justement par ces agences réglementaires, en prenant en compte les pratiques agricoles, en prenant en compte les pratiques alimentaires. Et donc on évalue quelle est la probabilité d'exposition à ces produits. Et en fonction de la toxicité et des risques d'exposition, on met en place une réglementation qui fixe les limites acceptables. Alors, en termes un peu plus techniques, Les toxicologues évaluent ce qu'on appelle la DGA, c'est-à-dire dose journalière acceptable. Ensuite, on évalue la quantité d'exposition qu'un individu peut rencontrer dans la pratique. Et on regarde si, compte tenu de la dose journalière acceptable, si cette exposition est acceptable sur un plan toxicologique. Et on fixe ce qu'on appelle des SMR, c'est-à-dire des limites maximum de résidus. Alors je vais à la slide suivante. Alors ça, c'est une slide un petit peu technique, et je m'en excuse. C'est l'évaluation, c'est le tableau, c'est le résumé de l'évaluation toxicologique par la Commission européenne. Et donc vous avez là les études qui ont servi de base à ces critères. Et vous avez ici, que j'ai marqué en rouge, les doses maximales acceptables. Et par exemple, ce qu'on appelle la dose, la DGA, dose maximale journalière acceptable, c'est 0,5 mg par kilo de masse corporelle. Donc pour une personne de 60 kg ou 110 kg, vous multipliez 0,5 par 110. Pour les opérateurs, la dose maximale, l'exposition maximale journalière acceptable, et de 0,1 mg par kilo de masse corporelle. Alors pourquoi c'est 0,1 pour les applicateurs et puis 0,5 pour le public général? C'est qu'on considère, enfin dans le cas du glyphosate, il n'y a que 80% du glyphosate ingéré en fait est excrété. Donc il n'y a que 20% qui se retrouve dans le métabolisme. Donc c'est pour ça qu'on divise. Alors dans le cas de l'inhalation par exemple, on divise par 5 le 0,5 pour arriver au 0,1. Alors bon, c'est assez technique. Si vous voulez, on peut détailler ce tableau, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. La suite. Alors là, c'est un tableau également qui a été fait par la Commission européenne, enfin par les instances européennes. Ça vous positionne, donc c'est les critères qui caractérise la toxicologie du glyphosate, si vous prenez l'ADI, c'est Acceptable Daily Intake, c'est la dose journalière acceptable, et c'est où se trouve le glyphosate par comparaison avec les autres herbicides. Pour vous montrer que le glyphosate, si vous prenez la dose journalière acceptable, maximale acceptable, le glyphosate est pratiquement un des moins, si ce n'est le moins toxique parmi les autres, comparé avec 141 herbicides homologués en Europe. Si vous prenez l'AOL, c'est le maximum qui est applicable, la dose maximale pour les applicateurs. Vous voyez que le glyphosate également se situe dans le tiers supérieur. Donc plus on est haut, moins on est toxique. Donc c'est simplement pour vous donner une idée du positionnement du glyphosate par rapport aux autres herbicides. C'est un des moins toxiques. Alors, la position du CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche sur le cancer. Donc voilà, la position est indiquée ici. Limited evidence of non-Hodgkin melanoma, je crois, c'est ça?
Lymphome
non-Hodgkinien. Voilà, c'est ça. Mechanistic evidence of genotoxicity and oxidative stress and classified as donc groupe 2A probable, carcinogène probable. Donc c'est ça la position qui a été rendue publique en mars 2015 par le Centre international et qui a provoqué un émoi terrible, quoi. Alors la suite. Alors là, je vous ai mis dans cette liste quand même les 1003 agents qui ont été examinés par le CIRC et qui ont été classés par le CIRC. Alors simplement, le groupe 1, c'est cancérigène établi. Le groupe 2, c'est cancérigène probable. Le groupe 2A, pardon. Le groupe 2B, c'est cancérogène peut-être. Et puis après c'est non cancérigène. Alors simplement, dans le groupe 2A, où se trouve le glyphosate se trouve ici. Vous avez les boissons chaudes, ça c'est le classement du CIRC. Vous avez les boissons chaudes, vous avez la viande rouge, vous avez la combustion domestique du bois qui génère beaucoup de dioxines. Quand vous êtes devant un feu de cheminée, vous en prenez plein, vous inhalez beaucoup de produits toxiques. Vous avez des expositions professionnelles comme les coiffeurs, les barbiers. Donc vous voyez, ce sont des classements dans le groupe 1, vous avez les boissons alcoolisées, vous avez la viande transformée, vous avez bien sûr le tabac, etc. Donc ça, c'est les classifications de danger. C'est pas des classifications d'exposition ou de risque. Donc la suite. Donc, alors ça, c'est la position des agences réglementaires suite à la prise de position par le CIRC. Toutes les agences réglementaires du monde, la France, la Commission européenne, le Japon, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Taïwan, etc., ils ont tous pris position. Et toutes les agences réglementaires, il n'y a pas d'exception à ma connaissance, toutes les agences réglementaires ont considéré que le risque pour l'homme, on parle de risque, on ne parle pas de danger, n'était pas avéré. Voilà. Alors, il n'y a que le CIRC qui maintient cette position. Alors, il est vrai qu'il y a certains instituts techniques, par exemple, j'ai vu que l'Institut du cancer du Canada, par exemple, était d'accord avec le CIRC. Bon. À la suite de ça, il y a eu des échanges entre le CIRC et donc la Commission européenne, en fait, avec le RAC, qui est le Risk Assessment Committee, au niveau de la Commission européenne. Et donc, moi, j'ai vu ces échanges. Le scientifique principal du CIRC, qui s'appelle Christophe Portier, qui est un Américain, qui donc a contesté les positions de ces agences réglementaires, et en particulier l'agence, a envoyé une lettre, et disons, le European Chemical Agency a répondu point par point. Donc, c'est des documents qui font après une centaine de pages. hyper technique. Alors j'avoue que j'ai essayé d'y comprendre quelque chose, mais je suis rentré dedans, mais c'était un petit peu trop compliqué. Mais tous les points qui ont été soulignés par Christophe, le fameux Christophe Fortier, ont été repris au niveau de l'agence européenne, et point par point, ça a été répondu. Alors bon, je ne rentre pas dans ce détail, mais parce que c'est quand même assez complexe, mais chaque point a été répondu. Et toutes les agences, comme je dis, ont confirmé qu'en termes de risque, ce risque cancérigène au niveau de la population n'était pas avéré. Alors, la slide suivante. Oui, alors là, je vous ai mis... Je suis tombé sur Gérard Pascal, qui était un toxicologue et épidémiologue de l'INRA, donc qui a fait tout un papier là-dessus. Alors, je vais vous citer que la conclusion. Hein. Au final, s'il n'est pas contestable que le glyphosate est un produit dangereux, le risque qu'il représente pour l'homme, qui dépend des conditions actuelles, n'est, à mon sens, pas établi scientifiquement à ce jour. Donc ça, c'est les conclusions de Gérard Pascal, toxicologue. Hein. Alors bon, il explique, ça c'est uniquement la conclusion, mais après il explique un petit peu pourquoi il arrive à cette conclusion. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on ne peut pas conclure la même chose quand on ne regarde pas les mêmes éléments. Et c'est vrai que le CIRC, entre parenthèses, le CIRC ne fait pas les évaluations eux-mêmes. Hein. Ce qu'a fait le CIRC, c'est qu'ils se sont réunis pendant une semaine et ils ont passé en revue une trentaine de produits, dont le glyphosate. Ils ont fait et chaque expert avait comme mission de faire un résumé de toutes les études mondiales qui étaient retenues par le CIRC et donner ses conclusions et partager ses conclusions avec les autres pour arriver à un consensus. C'est comme ça que le CIRC, en une semaine, a établi que le glyphosate était carcinogène probable 2A. Mais ça a été, alors l'argumentation a été reprise par les experts de la commission, enfin des agences européennes, et point par point, ils ont répondu point par point. Alors, il y a quand même un point très important. Le service de l'agriculture, de la santé, de l'agriculture américain a fait une étude épidémiologique. Donc ça, à mon avis, les études épidémiologiques, c'est véritablement le juge de paix, parce qu'on voit, s'il y a un effet ou pas. Sur 54 000 agriculteurs et applicateurs, entre 1993 et 2013, donc sur 20 ans, 50 000 agriculteurs, applicateurs sur 20 ans. Donc cette étude a été rendue publique après la prise de position par le CIRC. Ça a été rendu public en 2016 à peu près. Et les conclusions, c'est que parmi les 54 000 applicateurs, il n'y a pas, le glyphosate n'a pas été statistiquement associé avec quelque forme que ce soit de cancer. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de très important, parce que c'est la réalité. Ils ont pris 54 000 agriculteurs dans l'Iowa, en Caroline du Nord, et puis dans un autre état, Caroline du Nord, Iowa, oui. Et ils ont regardé ce qui s'est passé pendant 20 ans. Bon, donc, et pendant 20 ans, on n'a rien vu. Donc c'est quand même, à mon avis, quelque chose d'assez important. Bon, là, c'est... En fait, il y a un autre point qui est très important pour avoir une idée là-dessus. C'est voir l'exposition de la population générale. Puisque nous tous, on a un petit peu de glyphosate à l'intérieur du corps, probablement, ou dans les urines. Et donc, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave ? Donc il y a des études qui ont été faites. Il y a un Allemand qui a repris toutes les études d'analyse d'urine, puisque finalement l'analyse d'urine est un indicateur incontestable de l'exposition de chaque personne. Et ils ont regardé que donnaient ces analyses d'urine sur. Alors ça a été fait dans 6 ou 7 pays, avec des cohortes qui peuvent varier entre 30 jusqu'à 200. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ces analyses d'urine, alors premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que le métabolisme du glyphosate, le glyphosate ne s'accumule pas dans le corps. Le glyphosate est excrété. Soit il est excrété à travers le transit digestif, 80%, soit il est excrété à travers les reins. Et donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans l'urine. Et d'ailleurs, quelque part, il y a des gens qui font remarquer que c'est bien qu'on le retrouve dans l'urine plutôt que d'avoir le glyphosate qui s'accumule dans le corps. Donc le glyphosate est métabolisé au fur et à mesure qu'on en ingère. Alors qu'est-ce que ça représente? Ici, vous avez les valeurs qui sont exprimées en pourcent de dose journalière acceptable. Et donc, dans ces études, on a trouvé que dans toutes ces études qui présentent quand même une grande diversité de situations, en moyenne, la dose que l'on retrouve dans les urines représente à peu près un centième de la dose journalière acceptable. Alors, sachant que la dose journalière acceptable est déterminée en prenant elle-même un facteur 100. C'est-à-dire que pour évaluer cette dose, on prend les études de toxicité sur différents types d'animaux. On prend l'animal le plus sensible, en général c'est le lapin d'ailleurs. Cet animal, on multiplie par 100, on divise plutôt par 100 les résultats pour avoir des marges de manœuvre. On prend un facteur 10 pour les variations entre espèces et un facteur 10 pour les variations intra-espèces. Donc vous avez un facteur de 10 000 entre les doses que l'on retrouve ici et les doses qui commencent à faire un effet dans les études animales. Donc voilà. Bon, à chacun de juger si c'est acceptable ou pas acceptable. Bon, tu peux passer celle-ci. Bon, là, celle-ci est un petit peu compliquée. Hein. C'est un diagramme. C'est un diagramme qui est en échelle logarithmique. Alors, je sais pas, pour ceux qui sont spécialistes, peut-être, Gilles, tu connais bien ça. Faut prendre le temps de regarder, mais en gros, hein, ici vous avez en échelle logarithmique, vous avez les doses maximales journalières acceptables. En bleu, ce sont les expositions des opérateurs. Vous voyez que les expositions des opérateurs en moyenne se retrouvent à plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux doses maximales journalières acceptables. Ici vous avez l'exposition de la population générale, hein, c'est-à-dire à travers la nourriture. Et vous voyez que là aussi, on se retrouve de manière très inférieure aux doses maximales acceptables par les toxicologues. Alors ces doses maximales acceptées par les toxicologues se trouvent elles-mêmes deux ordres de grandeur inférieures aux doses sans effet observées chez les animaux. Oui, c'est un peu compliqué. Comment ? C'est acceptable daily intake, c'est dose journalière acceptable. Je m'excuse, hein, c'est compliqué. Et bon, je réalise bien que beaucoup d'entre vous sont perdus, mais je ne savais pas très bien avec qui j'avais affaire. Hein. Alors, il y a peut-être parmi vous des scientifiques ou des non-scientifiques. Hein.
Il y a de tout.
Bon. Alors, conclusion. Hein. Bon, j'arrive enfin à conclusion. Moi, je considère, mais je n'impose cette conclusion à personne. Hein. Je donne simplement les éléments que j'ai collectés. Moi, je considère, et bon, beaucoup de scientifiques considèrent, qu'il n'y a pas d'effet, que le glyphosate ne pose pas d'effet toxique délétère pour la population. Bon, enfin, bon, je ne veux pas du tout imposer ma... Hein, bon, je comprends très bien que vous ayez une opinion différente. Hein. Je considère aussi... Alors, je relativise ça. Hein. C'est vrai que le glyphosate est partout. Hein. Le glyphosate est partout. Hein. Et donc, ça peut poser question. Il y a des gens qui disent, ce produit est partout, je n'accepte pas. Donc, ça pose... Alors, il y a un point quand même sur lequel, à mon avis, qui quand même peut poser question, c'est que on n'a jamais testé, ou on ne peut pas tester, en fait, des doses extrêmement faibles, même 100 000 fois plus faibles que celles qui sont observées dans les études toxicologiques, mais sur des décennies, par exemple. Et dans la population générale. Donc c'est vrai que ce type d'exposition, certains peuvent considérer que c'est inacceptable. Alors, est-ce qu'il faut plus de régulation, plus de surveillance épidémiologique? Oui, certainement. Mais ça fait quand même 50 ans que ce produit est là. Hein. Alors bon, en guise de course... Alors, ah oui, j'avais oublié ce graphique. Oui, non, c'était simple. Alors oui, voilà, c'est quand même important, ça. Il y a quand même une information qui est quand même très orientée. Alors c'est un, cette compilation a été faite par un membre de l'Académie d'Agriculture, hein, c'est vraiment qui l'a faite. Il a fait la compilation des articles de journaux, la façon dont les articles de journaux ont repris l'information, c'est l'information que je viens de vous décrire. Et sur un total de 33 articles, entre le 29 et 30 mai, donc 73 citent l'avis défavorable du CIRC, la moitié d'entre eux déforment les propos en disant, au lieu de cancérigène probable, ça devient cancérigène, 12% ne citent pas les autres agences, et aucun ne fait état du consensus. Alors le consensus, vous l'avez ici, vous avez là ici, vous avez toute une série d'agences réglementaires. Alors, en vert, c'est quand elles ont pris position en faveur du glyphosate, et puis vous avez le CIRC qui considère que c'est négatif. Donc, si vous voulez, les articles de journaux ont tous repris l'information comme quoi le CIRC avait pris cette position défavorable, et n'ont jamais, ou pratiquement jamais, équilibré ça avec le fait que toutes les agences réglementaires mondiales, pratiquement toutes, il n'y a pas d'exception, hein, ont considéré, au vu des résultats, au vu des études toxicologiques, au vu des études d'exposition, ont considéré que le glyphosate ne posait pas un problème de santé publique. Alors reste le fait que ce produit se retrouve partout, et que, bon, on peut ne pas l'apprécier, reste le fait que ce produit est associé avec l'agriculture industrielle, que certains rejettent complètement. Alors la slide suivante. Bon, moi, c'est un petit peu ma conclusion, hein. Je considère que le glyphosate est un espèce de point de convergence idéal. Le glyphosate rassemble toutes les polémiques. Les polémiques sur l'agriculture industrielle, sur les OGM, sur la pollution, sur Monsanto, sur les lobbies, sur les experts. Parce que, bien sûr, tous les experts, on considère que les experts sont achetés dans cette affaire. Hein. Tous les experts. Et puis le principe de précaution aussi. On considère, principe de précaution, il y a une possibilité infinitésimale que ce produit pose un problème, donc on l'écarte. C'est ce que je résume en disant, l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence. Hein, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on en est là. Moi je pense qu'en France, le combat est perdu, hein. Et je pense que l'agriculture française va probablement être privée de cet outil et que ça aura des conséquences forcément. Voilà, mais ceci étant, et je reviens à ce que je disais au début, j'ai travaillé dans l'industrie agrochimique, je suis formaté par l'industrie agrochimique, donc j'ai probablement des opinions orientées et je respecte les opinions de chacun. Mon intention, c'est pas absolument pas de vous convaincre, hein. Mon intention, c'est de vous apporter des éléments d'information.
Merci. Merci.